Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir dans cette émission. Quel est le rôle des médias dans un processus électoral? On en parle dans cette émission avec Madame Megan Larson-Koné, conseillère en communication à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Madame Megan, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous avons également sur ce plateau Monsieur Eugène Kandolo, journaliste et ancien participant au programme des visiteurs internationaux du département d'État américain. Eugène Kandolo, bonjour.
Bonjour Daniel.
Bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. Des questions et préoccupations, eh bien, écrivez-nous à service@radiookapi.net. Vous avez également la possibilité de poster vos questions et préoccupations sur la page Facebook de l'émission Okapi Service. Bob Landou à la mise en onde, Tati Mapoukoua sur la réalisation. Au micro, c'est Jody Daniel Keshama sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous.
Okapi Service, Service Plus.
Okapi.
Encore une fois, bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service qui s'intéresse aujourd'hui au rôle des médias dans un processus électoral. En RDC, les électeurs seront appelés à élire les nouveaux dirigeants en 2023. Du côté des États-Unis, c'est déjà les élections ont déjà démarré, c'est au mois de novembre prochain que tout va se dérouler. Alors, pour que les élections soient libres et équitables, il est important que le vote se déroule dans des bonnes conditions, mais aussi que les électeurs aient accès à une information adéquate sur les partis politiques, sur le processus électoral lui-même, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Alors, quel rôle les médias sont appelés à jouer dans un processus électoral? Madame Megan Larson-Koné est conseillère en communication à l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Madame Megan, encore une fois, bonjour.
Merci, bonjour.
Alors, dites-nous quel est le rôle des médias dans un processus électoral?
Bon, tout d'abord, merci de me recevoir sur le plateau ce matin. Je suis ravie d'être avec vous. Je peux vous dire que la presse joue un rôle clé dans une démocratie, non seulement pendant la période d'élection, n'est-ce pas, mais toujours dans une démocratie. Leur rôle est d'éclairer les questions importantes pour le public et aussi de partager avec le public ce qui font leurs représentants élus, n'est-ce pas, le gouvernement qui les représente. Alors, en période des élections, c'est même plus important qu'ils jouent la presse. Elle joue cet rôle pour que les votants puissent savoir quels représentants reflètent leur politique préférée, n'est-ce pas, et qu'ils aient les informations nécessaires pour prendre les décisions éduquées sur leur vote. Hein, parce que le vote, c'est le droit élémental d'une démocratie, et la presse aide les votants à vraiment profiter et mettre en action ce droit.
Aujourd'hui, comment parlez-nous des élections déjà aux États-Unis? Est-ce qu'on peut dire que maintenant les gens commencent déjà à voter et comment les médias arrivent à informer la population?
Exact.
Sur le processus.
Bien sûr. Comme vous avez dit, les élections ont déjà commencé parce qu'on a des processus de vote en avance. Les élections, par la loi, sont le premier mardi de novembre, chaque 4 ans. Alors, ça sera le 3 novembre de 2020. Mais on a la possibilité de voter tôt et aussi de voter par la poste, ce que moi je fais parce que je suis américaine à l'étranger et comme notre ambassadeur a fait. Si vous suivez son compte Twitter, vous avez vu la photo qu'il a il a diffusé l'autre jour quand il a envoyé son vote par la poste. Alors, ce que la presse nous aide à comprendre est comment on peut voter, n'est-ce pas? Mm-hmm. Parce qu'aux États-Unis, les 50 États gèrent les processus électoraux individuellement, n'est-ce pas? C'est le rôle des États. C'est pas au niveau national qu'ils sont dirigés. Alors, dans certains États, on peut voter une semaine avant le jour J, deux semaines avant le 3 novembre.
Pourquoi on doit voter comme ça?
Bon, il y a plusieurs raisons. C'est... aux États-Unis, le jour des élections, c'est pas un jour férié, n'est-ce pas? C'est un mardi, c'est toujours un mardi. C'est normalement pour la plupart des gens, c'est un jour de travail. C'est pas tout le monde qui a le droit de prendre les heures de permission pour aller voter. Alors, on veut donner plusieurs possibilités pour que les gens puissent voter. C'est l'élément clé de la démocratie. Il faut qu'ils aient toutes les possibilités possibles pour profiter de ce droit. Alors, ils peuvent des fois voter le week-end. Cette année aussi, bien sûr, on sait qu'il y a le COVID dans l'environnement. Mmh. Alors, on veut...
éviter des attroupements dans ça. Les bureaux de vote.
Exact, c'est ça. Alors, plusieurs raisons pour lesquelles ils le font.
D'accord. Eugène Candolo, vous êtes journaliste et ancien participant au programme des visiteurs internationaux au département du Département d'État américain, IVLP. Alors, dites-nous, quel est le rôle que les médias sont censés jouer dans un processus électoral? En RDC, on sait que c'est en 2023 qu'on ira voter les dirigeants.
Oui, en RDC, c'est en 2023, mais le média, sachant leur rôle capital, ils n'ont pas besoin d'attendre 2023. Je salue à juste titre le travail que j'ai vu, notamment un média de La Place qui a un programme qu'ils appellent En route vers 2023. Et c'est un programme qui aide déjà à cristalliser la population autour de la question et de l'enjeu même de la question électorale. Donc le média, souvent on parle de quatrième pouvoir. Le média ne sont pas qu'un pouvoir, mais les médias, au-delà de tout, c'est en fait une institution d'appui à la démocratie. Et les médias ont un rôle de cristalliser les vues de la population par rapport effectivement à l'enjeu, à l'importance même de la question électorale. Parce que la question électorale part de l'importance du vote au besoin même de réponses que les votes devraient apporter. Et par conséquent, on ne connaît pas toujours tout. Il y a la loi électorale que la population doit comprendre. Il y a les enjeux liés autour de qui est député, qui ne l'est pas, quel est le rôle de député. Tout ça, ce sont des éléments en fait que la presse, quand elle joue bien son rôle, et elle est appelée à faire, parce que si la presse démissionne à ce devoir, par conséquent, la population, elle est vouée à elle-même et tout le monde va dans n'importe quel sens et malheureusement, cela va ouvrir de brèches à de la manipulation, à de l'intox et par conséquent, c'est la société qui va se mourir dans des travers de actes inciviques et de fois même dans le déni de ce qu'est le procès électoral dans son sens complexe du mot.
Alors si je comprends bien, la presse doit déjà commencer, par exemple ici en RDC, doit déjà commencer à sensibiliser les gens maintenant.
Il est très important parce que...
Ou il faut le faire seulement pendant le processus.
Autant pour la presse que pour tout le monde, on doit comprendre que c'est une culture qui est en train de s'installer. Tout à l'heure, Mégane parlait des États-Unis. C'est devenu une culture, mais au-delà de ça, elle te dira, ce n'est pas toujours l'engouement automatique. Et par conséquent, il faut montrer aux gens le pourquoi, en fait, il faudrait aller voter. Et pour le dire, par exemple, pour le cas de notre pays, il y a un temps où il y a eu vraiment un relâchement, où il y a eu une distanciation entre la population et les processus électoraux. C'est vrai que le dernier processus électoral a eu beaucoup d'engouement parce que les gens voulaient un vote sanction. Malheureusement, il y a eu tout ce qu'il y a eu après le procès électoral. Mmh. Mais je crois qu'il y a maintenant un enjeu majeur, que ce soit pour le chef de l'État, que ce soit pour la classe politique, que ce soit pour la population, un vrai rendez-vous qu'ils ont en 2023 pour corriger les erreurs du passé. Et par conséquent, les médias doivent prendre la responsabilité en ces moments pour effectivement accompagner, orienter ces vues, aiguiser même, parce que c'est très important que les gens comprennent que l'enjeu que nous avons pour 2023, c'est vraiment un démarrage pour notre pays. Et par conséquent, il faut cristalliser cela. Il faudrait que davantage cela soit cultivé dans les mentalités des gens. Mmh. Ils comprennent l'importance parce que sinon, ils se diront, nos votes ne font rien. Alors pourquoi aller voter?
Voilà, Mégane, c'est un problème. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout voter. Ils se disent, bon, ça m'intéresse pas. Je préfère rester chez moi à la maison. Je préfère ne pas aller voter. Alors comment les médias peuvent les amener, n'est-ce pas, à s'engager?
Vraiment, c'est un problème. Les gens pensent que j'ai qu'un seul vote, normalement, un seul vote, n'est-ce pas, par personne. Oui. Et ça compte pour rien, surtout aux États-Unis, dans un pays qui a plus que 350 millions d'habitants, et aussi en RDC qui a presque 100 000 habitants. Alors, le rôle que le média peut jouer est
de... RDC, on est autour de 80 millions aujourd'hui.
Il y a trois ans, on parlait de 80 millions.
Parce que
je suis ronde. Exactement. 100 millions.
C'est vrai, exact. Mais ce que les médias puissent faire est de partager les informations, par exemple, sur les élections antécédentes aux États-Unis, où on a les décisions prises par une différence de 2, 3, 10 votes, n'est-ce pas? En total, je pense que c'est un montant de 75 000 votes dans certains États qui ont changé les résultats en 2016. Avant 2016, on a eu une vote entre Al Gore et président George W. Bush, ou dans l'État de Floride qui a décidé les élections, il y avait une différence de 500 ou 600 votes, n'est-ce pas, qui ont décidé l'État de Floride. Alors, il faut que les gens, surtout les jeunes, parce que ce sont les jeunes qui ne votent pas assez nombreux comme les plus âgés aux États-Unis, et je me compte parmi les plus âgés.
Mais, et pourquoi les jeunes ne votent pas?
Bon, parce qu'ils ne voient pas
l'intérêt d'aller voter,
n'est-ce pas? Ils disent, bon, tu vas rester pareil, you know, ça compte pour rien si je vote. Alors, il faut qu'ils comprennent que vraiment, un vote d'une personne peux-tu changer? Et ça, c'est un message qui peut être partagé par les médias pour qu'ils apprennent de ce qui s'est arrivé avant, pour qu'ils comprennent la puissance même de leur un seul vote. C'est vraiment
une seule voix compte.
Une seule voix compte beaucoup.
Alors, à quel moment aux États-Unis les médias commencent déjà à donner des informations sur le processus électoral? Est-ce que ils attendent l'année même ou ça s'est fait bien avant?
Bon, c'est un travail permanent, mais aux États-Unis, la saison électorale commence à 12 mois, ou bon, ça commence en force, hein, 12 mois ou 18 mois avant le scrutin du 3 novembre. Mm. Alors vraiment, le reportage sur les élections, on a tout d'abord la sélection des candidats pour les différents partis politiques, n'est-ce pas, les primaires. Alors ils s'occupent beaucoup de couvrir ces activités, et puis on en donne les élections générales, et c'est vraiment pendant cette période que le reportage augmente beaucoup. Ça dépend de l'élection, n'est-ce pas? Parce que des fois, c'est plus calme, des fois, les questions sont plus complexes, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe. Alors, les reportages peuvent être plus amples pendant ces élections un peu plus, qui tirent un peu plus l'intérêt de la public que les autres. Alors, ça dépend un peu.
Et puis, ce sont les médias qui organisent les débats contradictoires entre les candidats.
Bon, aux États-Unis, c'est pas vraiment les médias. Il y a un organe indépendant qui s'occupe des différents débats au niveau présidentiel. À certains d'autres niveaux, ils peuvent être les journaux locaux qui les organisent.
Bien. Jeanne Candolo, nous parlons du rôle des médias pendant la campagne électorale. Mmh. Ici, chez nous, c'est souvent une période très mouvementée, il y a beaucoup d'agitation, et il y a certains médias qui font des dérapages, où on enregistre parfois des choses pas bien, des insultes et autres. Alors, pendant la campagne, comment les médias peuvent bien jouer leur rôle?
Oui, tu as fait bien de l'évoquer. Chez nous, il y a beaucoup de dérapages parce que les contextes même le dictent. Nous avons beaucoup de médias qui sont déjà partisans. Ce sont des médias qui, pour la plupart, ont comme patron des politiciens. Et par conséquent, chacun prêche pour sa propre chapelle. Et c'est des choses qui, malheureusement, on ne peut pas. Ce sont des organes indépendants, on ne peut pas aller les empêcher. Eux, ils profitent l'occasion pour faire la propagande de leur chapelle, au lieu effectivement d'amener des questions d'ordre d'éducation. Parce que l'élection est avant tout une question d'éducation. Il faut éduquer la population à l'élection. Ça veut dire leur dire pourquoi ils votent, l'importance du vote, comment on vote. Quel est l'intérêt qu'ils ont en votant, pour qui voter, notamment en les orientant sur le type de profil. Par parce que en réalité, si le média était indépendant et que jouait ce rôle, on aurait de moins en moins, en fait, de, j'allais dire de la camelote, mais je sais pas le terme que j'allais utiliser. On n'aurait pas des députés d'à peu près. Donc, mais comme je le disais, c'est une culture qui est en train de s'installer progressivement. Il y a un moment, les gens ne croyaient pas dans les élections. Il faille que, de plus en plus, on crée, on suscite dans la population cet intérêt, cette habilité à devenir de plus en plus confiant, à susciter de l'espoir que si on va voter, on peut apporter un changement, on peut apporter quelque chose. Et par conséquent, cela va cristalliser. Tout à l'heure, tu posais la question à Mégane par rapport à la question de débat.
Oui.
Moi, je me rappelle parce que j'ai plusieurs casquettes. Je me présenter comme journaliste, mais aussi ancien boursier du département d'État américain. Mm-hmm. Mais je suis consultant pour NDI. Je me rappelle des années passées, on a beaucoup organisé un programme orienté vers les débats. Mais je peux vous dire qu'il y a des candidats qui fouillaient parce qu'on allait demander aux partis politiques de nous donner un certain nombre de listes de candidats
qui
pour qu'on les forme d'abord
oui.
sur la question des débats, sur comment faire un argumentaire, comment faire un contre-argumentaire, comment débattre tant à la télévision que à la radio. On mettait des experts qui leur apprenaient comment être à l'aise dans ce genre d'exercice. Et par conséquent, on faisait une sorte de simulation pour leur permettre d'être en situation. C'est des programmes qui ont été faits ailleurs, notamment en Colombie, même quand elle a évoqué aux États-Unis, avec des institutions indépendantes qui permettent en fait à ce que les élus ou les candidats parviennent à débattre sur des questions de la population, pas sur des questions des individus. Et cela permet à susciter de l'intérêt. C'est une culture que l'on est en train de bâtir. Et c'est comme ça que je suis d'accord avec Mégane quand elle dit que c'est une question permanente. C'est vrai qu'il y a des moments où ça se cristallise. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas de primaire comme aux États-Unis, où vous sentez l'engouement déjà à 18 mois même avant les élections, parce qu'il y a le processus de primaire qui commence à cristalliser la population. Mais qu'à cela ne tienne, aussi longtemps que nous sommes en train de bâtir une culture, l'idéal n'a jamais été atteint. Le rôle de médias, je le crois, autant que nous sommes en train de voir certains signaux positifs dans ce pays, les médias retrouveront leur place. Leur place, quand je parle de leur place, j'évoque par exemple les cas de ce que j'ai vu aux États-Unis lors du programme, parce que j'étais effectivement dans un programme orienté sur les élections, campagne électorale et élections aux États-Unis.
C'était la campagne de quelle année ?
2014. Nous avons assisté aux élections à mi-mandat des sénateurs et gouverneurs. On a accompagné le média, on a vu les candidats, on a participé au débat sur des questions d'actualité, notamment par exemple sur des sujets de port d'armes, sur la gestion de charbon. En fait, au niveau des États fédérés, il y a en fait cette autonomie et par conséquent, on s'occupe moins de ce qui est politique nationale, fédérale. Mmh. Et on voit des questions par rapport à votre contrée, par rapport à votre communauté, des questions qui peuvent cristalliser la population et les médias alimentent ces genres de débats. Et ça, c'est très important. Ça permet à ce que les vues soient orientées. Maintenant, il y a un problème qui se pose par rapport à l'éducation même de la population électorale. Par rapport aux élections. Il y a le problème de droit d'information. Le droit d'information implique le droit d'informer et les droits d'accès à l'information pour le journaliste. Ce qui était restreint ici, au Congo, ce n'est pas toujours évident. Nous avons vu par exemple aux États-Unis, si un parti politique ou même un membre du gouvernement entrave à ce qu'un journaliste ne puisse pas avoir accès à une information, cela peut être dénoncé et faire objet de sanctions. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, parce qu'on sait que si vous voulez chercher de l'information, vous devez être sur une liste qui, dès le départ, est considérée comme une liste de paiement, de coupage. Mmh. Et par conséquent, parce que le coupage est limité, on restreint même aux journalistes qui n'étaient pas venus pour le coupage d'accéder à une information, pour parvenir à la partager avec son public. Mmh. Et du coup, en fait, c'est des choses qu'il faut corriger, notamment pour permettre à ce que la presse puisse avoir sa vraie liberté d'exercer. Liberté d'abord d'accéder aux informations et liberté de diffuser ces informations.
Voilà. Mégane, est-ce qu'aux États-Unis, les journalistes ont aussi éprouvent des difficultés d'accéder à l'information pendant la période électorale?
Ça dépend, n'est-ce pas, de quelles infos ils veulent, auxquelles infos ils veulent avoir accès. Bien sûr, il y a certaines partis, je dis pas partis politiques, je dis partis en général, qui ont l'intérêt de ne pas partager certaines infos.
Là-bas, c'est généralement républicain et démocrate. Hein. On a deux blocs.
On a deux blocs qui sont les blocs les plus connus et importants, mais il y a aussi d'autres partis politiques. Il y a les socialistes, la partie verte, il y a les libertariens. Alors, il y en a les deux connus sont les démocrates et les républicains. Mais ouais, en général, si les journalistes veulent les infos, si ils les reçoivent pas librement de leur source, ils ont on a les lois. Surtout, on a une loi sur le droit d'accès à l'information, le Freedom of Information Act. C'est un processus par lequel les journalistes ou le public ou les ONG, la société civile, puissent demander accès aux certaines informations. Et c'est la responsabilité de l'agence gouvernementale ou l'exécutif ou le Congrès de fournir ces infos au public. Bon, si je peux, je voudrais faire une différence. Dans la presse, il faut qu'on parle des deux camps, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le reportage, mais aussi les éditoriales et les commentaires, n'est-ce pas? Aux États-Unis, les médias sont pas... ils ont les biais conservateurs ou libéraux, c'est vrai, mais ils sont pas liés à un certain parti politique, comme peut être le cas dans la RDC des fois ou dans d'autres pays.
Les médias n'ont pas des couleurs... ou soutiennent tel ou tel autre parti.
Ils fournissent l'effort d'être les plus indépendants.
D'être indépendants.
Bon, oui, mais sur leur côté éditorial, qui est séparé, qui est différent que le reportage, n'est-ce pas? Il y a les journaux aux États-Unis qui donnent leur soutien à un candidat ou un parti politique ou l'autre, mais il y a un mur entre ces deux côtés, n'est-ce pas? Ils ont le droit de faire le commentaire sur la politique et de prendre une position. Mais pour le reportage, c'est vraiment indépendant. You know, ils suivent les infos où ils vont. Et ils n'ont pas un bias pour un certain parti politique ou l'autre. Alors, c'est important qu'on comprenne la différence entre ces deux parties de la presse et qu'on ne les confond pas.
Alors, je me souviens, lors des dernières élections, on avait suivi le président Trump qui disait que les médias étaient contre lui, les médias disaient beaucoup de mauvaises choses sur lui. Est-ce qu'on peut dire qu'aux États-Unis, les médias peuvent aussi prendre position en faveur de tel ou tel autre candidat?
Oui, et ils le font, mais comme je vous ai dit, c'est côté éditorial.
Éditorial, voilà.
C'est ça. Mais sur le reportage...
Ça reste équilibré.
Oui, des fois, on peut voir...
Le reportage reste sur le fait.
C'est ça. On voit le même organe de la presse qui, un jour, ils ont une histoire qui parle quelque chose de bien qui était fait par un candidat politique ou par le président, mais le lendemain, ils vont faire le reportage sur quelque chose qui n'est pas peut-être assez positif parce qu'ils suivent les faits et veulent que le public ait les infos correctes et pour qu'ils soient informés sur tout ce qui se passe dans notre gouvernement, avec les partis politiques, dans les élections. Comme ça, ils peuvent vraiment jouer le rôle d'un citoyen dans une démocratie.
Et Jean Candelon.
Exactement, c'est un fait. Donc il y a toujours une démarcation entre les commentaires qui peuvent être teintés même du choix éditorial. C'est vrai que la question que tu posais tout à l'heure, est-ce que les médias peuvent influencer, peuvent prendre position? Il arrive, parce que n'oublie pas, contrairement à d'autres pays qui ne s'assument pas, aux États-Unis par exemple, les médias sont des entreprises à part entière. Et par conséquent, ils évoluent selon les modèles économiques que eux ils ont mis en place. Pour les impératifs commerciaux, ils peuvent se dire que ce candidat-là, par exemple, n'est pas mieux par rapport à ce que nous avons comme aspiration. Mais ils ne vont pas inventer des informations. Ça, c'est ce qui est important. Ils vont rester dans les faits, mais ils vont prendre position pour chercher à orienter dans les commentaires pour démontrer que ce n'est pas le candidat qu'il faille. Ce qui est différent quand ils traitent des informations, des reportages, presse notamment. Mais ici, par exemple, les médias sont contrôlés. Les médias ici sont très contrôlés.
Ils sont contrôlés par les politiques.
Aux États-Unis, il n'y a pas de ministère de communication et médias, par exemple, tu vois, mais ici nous avons un ministère de communication et médias qui peut s'octroyer le droit de donner une fréquence à un média qui l'affectionne ou de refuser à un autre juste parce que le journaliste est trop libre et assez indépendant et il risque d'avoir plus de volume. Vous voyez un peu ça. Du coup, en fait, ça restreint même cette liberté, cette indépendance de la presse. Donc les médias sont inféodés à un ministère, ce qui ne devait pas être le cas, ce qui réduit même la marge de manœuvre par rapport à l'indépendance totale. Ils sont déjà comme censurés au départ. Regarde un peu comment les politiques ne sont pas trop intéressés par la question de la dépénalisation du délit des presses.
Si on dit que les médias constituent c'est le quatrième pouvoir, donc je comprends bien...
Très contrôlé ici. Très contrôlé. Déjà par le fait que je t'ai dit que la plupart de médias privés sont tenus par des politiciens. Et tout dépend de quel bord le politicien est. Et ils suivent. On peut même amener de l'intox juste parce qu'on veut faire une propagande pour son camp. Mmh. Et au-delà de ça, il y a cette question, en fait, de la gestion du ministère de communication et médias qui fait que la tendance du ministre de communication et médias fera que les médias puissent être étouffés ou non étouffés. Et de trois, j'étais en train d'évoquer avant que tu me relances, de la question de la dépénalisation du délit,
délit de presse.
Pourquoi chaque fois on fait semblant sur cette question? Parce que l'on sait que si on dépénalise les délits de presse, ça ne sera plus de façon arbitraire que le politique peut mettre la main sur un journaliste, ça sera les tribunaux de pair. Ça sera aux journalistes eux-mêmes de juger, en fait, si l'information qui a été livrée par un journaliste est un délit ou c'est une faute. Si c'est une faute journalistiquement parlant, les tribunaux de pair s'occupera de la personne moyennant un certain nombre de choses. Mais ça a des avantages et des inconvénients. Mais on a comme impression que les politiques, depuis beaucoup de temps, ont peur de cette dépénalisation parce qu'ils veulent toujours avoir une mainmise sur le journaliste. Et à tout moment, on peut inquiéter un journaliste parce que, en fait, aujourd'hui, les crimes, en fait, ce qu'on considère comme crimes commis par des journalistes sont traités au pénal.
Bien, au Capi Service, nous parlons aujourd'hui du rôle des médias dans un processus électoral. Nous recevons dans ce studio Madame Megan Larson-Koné, conseillère en communication à l'ambassade américaine en RDC. Nous avons également dans ce studio Monsieur Eugène Candolo, journaliste et ancien participant au programme des visiteurs internationaux du département d'État américain. On va souffler un tout petit peu en musique et on revient tout à l'heure. Nous allons retrouver nos invités pour clôturer cette partie. Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service, le magazine de la vie au quotidien. Aujourd'hui, nous parlons du rôle des médias dans un processus électoral. Alors, je l'avais dit tout à l'heure que les électeurs seront appelés à élire les nouveaux dirigeants en 2023 en République démocratique du Congo. Du côté des États-Unis, c'est au mois de novembre prochain.
Déjà, c'est le 3.
Mais voilà, le 3 novembre. Mais déjà, il y a des électeurs qui votent déjà de manière anticipativement. Ils votent anticipativement. Alors, pour que les élections soient libres et équitables, il est important que le vote se déroule dans de bonnes conditions, mais aussi que les électeurs aient accès à une information adéquate sur les partis, sur le processus électoral lui-même, afin de pouvoir faire un choix éclairé. Alors, Madame Megan Larson-Koné, comme je l'ai dit, vous êtes conseillère en communication à l'ambassade américaine. On a suivi tout à l'heure et Jeune nous dit qu'aux États-Unis, il n'y a pas un ministère qui s'occupe de médias. Comment les choses sont organisées aux États-Unis par rapport aux médias?
Bon, il y a les associations des journalistes, ils sont les organes indépendants, mais les journaux, les chaînes de télévision sont indépendants. Il n'y a pas un organe gouvernemental qui les gère en total, n'est-ce pas? Il y a le Federal Communications Commission qui s'occupe des questions techniques, n'est-ce pas, sur les différentes bandes que les chaînes vont occuper, les longueurs des ondes, c'est
oui,
ça, c'est ça la phrase,
les fréquences,
c'est
tout
ça. Oui,
c'est
les tout ça. Oui. Et on a les lois qui gèrent les informations et les médias aux États-Unis, mais il n'y a pas un seul organe qui est autour de toute cette question. Alors, cette indépendance a des aspects très positifs, mais aussi des côtés plus difficiles. Et on ne peut pas parler du média sans qu'on parle de l'intox, l'infox, les fausses nouvelles.
Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, voilà.
C'est ça. Et bon, tout organe de la presse crédible ne s'occupe pas de fausses nouvelles, de fake news, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas nier que c'est très présent sur les réseaux sociaux. Et des fois, il y a les médias et les journalistes qui tombent dans une affaire de fake news sans vouloir le faire. Mais cette question de l'infox est très pertinente. C'est devenu de plus en plus commun. Ceux qui créent ces fausses nouvelles deviennent de plus en plus sophistiqués, n'est-ce pas? Ça peut être très difficile de vraiment voir.
Parfois, on a l'impression qu'il y a toute une rédaction, des gens qui sont là, des manipulateurs, qui n'ont pour rôle que de diffuser les infox.
C'est vrai, mais il y a aussi les gens, les individus qui sont chez eux avec un laptop
et leur
leur capacité technique. Et bien sûr, ils créent quelque chose qu'on peut voir, le vrai. Et leur création, on ne peut même pas voir la différence entre ces deux produits parce qu'ils sont tellement sophistiqués et l'accès aux infos est tellement ouvert maintenant que c'est très facile pour eux de créer ces fake news, ces fausses nouvelles. C'est quelque chose qui est très difficile pour les médias et pour la presse parce que ça nuit à comment la population croit en leur reportage, n'est-ce pas? Parce que s'ils voient que le fake news existe, ça fait qu'ils posent les questions sur ce qui est diffusé, ce qui est partagé par les vrais journalistes et par les organes de la presse. Ça, c'est une question très importante dans une démocratie, surtout aux États-Unis, parce qu'il faut que la population croit en le système, en les infos qu'ils reçoivent. Alors, c'est une question auquel nous faisons face en ce moment et aujourd'hui, j'ai pas une réponse concrète pour vous, mais je sais que c'est une question auquel il nous faut trouver une réponse.
Eugène Candolo, les médias, on parle du rôle des médias, mais dans les contextes des médias sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'Internet, on se souvient, lors des dernières élections à RDC sur Internet, ça allait dans tous les sens, il y avait beaucoup de fausses informations. Comment les journalistes peuvent s'en sortir dans un tel contexte?
J'avoue que c'est très difficile. Très, très difficile. Si déjà c'est difficile pour les États-Unis, à forcerie le Congo, où on ne sait même pas comment gérer les questions du virtuel. Il n'y a pas une loi spécifique sur la gestion du virtuel. Déjà, la loi portant création du CSAC, cette structure qui est censée gérer, réguler le média, cette loi est muette par rapport à la question de tout ce qu'il y a comme médias sociaux et tout. Et même s'il y avait une loi, quels sont les moyens qu'on met à disposition pour pouvoir effectivement tracer et parvenir à réprimer ce chose? C'est pas évident. C'est vrai que il y a d'un côté ce monde qui est devenu village planétaire où on a comme impression qu'on n'est pas obligé forcément d'attendre les journaux de 20 heures. Parce que quand on se réveille le matin, c'est pas le l'écran de la télévision qu'on
c'est
regarde.
C'est le téléphone ou WhatsApp.
C'est pas l'écran de l'ordinateur.
Twitter.
C'est l'écran du téléphone. Oui. Et sur l'écran du téléphone, aujourd'hui, le monde, on a compris. Donc, c'est sur l'écran du téléphone que quelqu'un veut s'informer. C'est pas à la télévision, c'est pas sur son ordinateur qu'il est. Et par conséquent, il y a tous les flux. On est dans une sorte de, j'allais dire, overdose d'informations. En même temps. Et maintenant, comment faire la sélectivité pour parvenir? Moi, j'ai vu pendant les élections de 2018, la même photo, on te dit, on vient d'attraper les bulletins de vote à l'aéroport, de tel endroit, qui venait de l'Afrique du Sud.
On vient d'attraper les machines à
voter
là-bas.
Avec la même photo, on te dit. Mais finalement, les gens ont une sorte de paresse d'attendre que les infox et les intox puissent venir vers eux et que, par conséquent, ils prennent ça pour acquis. Au lieu d'avoir cette attitude de vérification. C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. Le vrai journaliste qui sont passés par des écoles de journalisme, ils savent que quand tu es devant une information, il faut vérifier la véracité, l'authenticité, la crédibilité de la source. Quand le public est devant l'intox, et il partage à volonté, avec délectation et des fils en aiguille, vous connaissez le caractère viral de ce qui est partagé par les médias sociaux. Et c'est ce qui fait que les gens ont été davantage désinformés, les gens ont été emprunt à l'intox parce que effectivement il y a cette impuissance, cet aveu d'impuissance collectif que nous avons face à la vitesse de ces rumeurs, à la vitesse de ces infox, de ces intox. C'est un monde de plus en plus assez délicat au-delà de tout ce que ça apporte comme côté positif.
Mais c'est
avec
ce qui est dommage, c'est qu'il y a certains journalistes qui tombent dans ce qui se retrouve dans.
Non, mais après, il y a quand même un nivellement vers le bas dans ce qu'on appelle journaliste. Je ne suis pas ici en train de faire le procès de journaliste au Congo, mais c'est bien triste de constater que ceux qui font du succès à la télévision ne sont pas de vrais journalistes. En fait, et c'est là que nous tombons en fait dans une sorte de satisfaction populaire d'une population qui au départ n'est pas éduquée. Ceux qui sont des vedettes aujourd'hui dans le média, c'était les piètres produits qui n'ont pas assimilé les notions de base, notamment la déontologie, des questions des valeurs en journalisme, et qui malheureusement s'exhibent dans le vedettariat. Ils donnent l'info, l'intox le matin, ils se dédient, ils ne se gênent même pas. Le vrai journaliste, si, parce que ça arrive, il fait une erreur. J'ai vu une fois l'aîné Christian Lusakweno, il y a eu une... information qui n'était pas vérifiée, qui est passée. Je crois que c'était aussi en rapport avec l'ambassade des États-Unis et tout ça. Et ils sont rentrés vite, pas seulement cette fois-là. C'est ça l'humilité journaliste. Le journaliste fait l'effort pour être professionnel, mais en même temps, au-delà de l'effort qu'il fournit pour ne pas tomber dans l'erreur, l'erreur peut arriver. Et l'humilité de reconnaître que nous avons fait l'erreur, ça c'est ce qu'on enseigne dans les écoles de journalistes. Malheureusement, ici il y a l'arrogance. Ici, quand quelqu'un tient son micro, qu'il a déjà invité deux ministres et qu'il sait qu'il a atteint le summum, pour lui c'est ça. Du coup, en fait, il n'y a pas le respect ni de la déontologie, ni de quoi que ce soit. Et comme tout le monde peut créer sa chaîne YouTube et faire son média en ligne, tout le monde
se permet de
faire n'importe quoi. Oui. C'est pour cela qu'à un moment donné, je crois que cette question des dépénalisations de délits de presse résolvera beaucoup de choses. Entre autres, notamment la question de la qualité du journaliste. C'est vrai que la structure même qui est censée gérer le journaliste, il y a aussi à boire et à manger. Vous avez vu les dernières élections, notamment de l'UNPC. Moi, j'ai fait mon travail de fin d'études là-dessus. J'en ai même consacré un livre, l'intégration et la socialisation des journalistes dans le paysage médiatique congolais. C'est une question très importante. Et aujourd'hui, on a du mal à définir qui est réellement journaliste, surtout que la définition de journaliste, elle est poreuse, elle est ouverte, cette définition qu'on a empruntée de chez les Français. Donc, tout celui qui collecte, traite et diffuse l'information et qui vit essentiellement de ça, il est journaliste. Donc, cette définition laisse un champ libre à tous les charlatans, à tous les verrés qui
tout
peuvent...
Tout ça, ils deviennent des journalistes. Megan, avec les fake news aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça vient un peu changer le rôle. Est-ce qu'on peut dire que ça vient un peu bouleverser le travail du journaliste qui est dans les médias traditionnels, à la télévision, à la radio ou dans les newspapers?
Je pense que le travail reste pareil, n'est-ce pas? C'est chercher les infos correctes et les partager avec la population. C'est comment ils le font et c'est par quelle forme de médias qu'ils partagent ces infos qui a changé. Maintenant, il y a les journalistes qui sont aussi sur Twitter, ils sont aussi sur Facebook. En même temps qu'ils font le reportage sur la chaîne de télévision ou sur la radio ou dans le journal pour lequel ils travaillent, ils peuvent
Mais
aussi...
Mais les gens, la tendance aujourd'hui, les gens s'informent beaucoup plus sur... Dans les réseaux sociaux.
C'est vrai, mais en même temps, les médias, ils ont aussi trouvé leur moyen pour partager leurs infos par ces mêmes réseaux. Alors, eux, ils ont aussi accès à ces réseaux. Ils ont une population qui les suit sur les différents réseaux sociaux et comme ça, ils peuvent s'assurer de la réception de ces infos par la population cible. Alors, je pense que le travail de base ne changera jamais, n'est-ce pas? C'est la collecte d'infos pour les partager correctement avec la population. Et comme Eugène vient de dire, un élément clé pour faire la différence entre un vrai journaliste et quelqu'un qui n'est pas pareil, ils peuvent tomber dans des difficultés, ils peuvent tomber dans le fake news, mais ils se corrigent immédiatement. Dès qu'ils apprennent qu'ils ont fait une erreur, ils corrigent les infos parce que pour eux, c'est plus important que la population reçoive les informations correctes, qu'ils gagnent une réputation ou une front face à la population. Mais leur travail de base, ça n'a jamais changé, n'est-ce pas, pour les journalistes. Vous êtes journaliste, je pense que pour vous, ça ne changera rien. Ça ne changera jamais. Mais comment vous allez partager les infos, ça change précipitamment dans notre monde de communication.
Parce que les journalistes prennent le temps de vérifier, de collecter, vérifier, puis de traiter, de diffuser. Mais dans les réseaux sociaux, ça va très vite.
Oui, en fait, il y a cette course. C'est vrai que ça existe, le mot scoop. Ça existe.
Oui.
Il y a cette tendance à vouloir être celui qui donne le scoop.
Le premier,
mais
voilà.
Mais en même temps, il y a la responsabilité du journaliste par rapport à la communauté. Parce que, en fait, une fois vous avez... par besoin du scoop. Aujourd'hui, le scoop se mélange avec, se confond avec le buzz. Il y a la recherche de buzz. Il y a du sensationnel dans le chef de certains journalistes qui veulent à tout prix qu'on parle d'eux. Et par conséquent, ils sont prêts à donner à n'importe quelle vitesse des informations non vérifiées avec les fameuses formules consacrées qu'on connaît. Selon les sources crédibles, selon les sources les plus...
Les sources bien informées.
Bien informées. Voilà. Et ils donnent comme ça, ils s'en foutent du reste. Et malheureusement, en fait, les gens perdent en crédibilité sans le savoir. Parce que quand tu donnes une fois le fake news, tu donnes deux fois, tu donnes trois fois, mais tu n'es jamais revenu pour ne serait-ce que par humilité dire que je m'étais trompé. Parce qu'un humain peut se tromper. Du coup, en fait, tu cesses d'être crédible. Tu peux avoir du succès parce qu'en fait, beaucoup de journalistes font l'erreur parce qu'ils ont un satisfait d'un monde vulgaire, excusez-moi, des gens qui n'ont pas assez d'éducation aux médias, d'éducation tout court, et par conséquent, ils donnent le satisfait populaire à certains sensationnels, et par conséquent, ils se contentent de ça. Or, la personnalité, ce n'est pas ça. Donc, quand vous vous rendez compte qu'en tant que journaliste, vous avez une responsabilité, et qu'au-delà de ce que vous pouvez avoir comme succès dans l'opinion, de gens qui n'ont pas un sens critique, un sens d'appréciation réelle de ce que vous faites l'erreur quand vous restez dans cette situation. Parce que, en fait, la communauté vous sanctionnera d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est une responsabilité vis-à-vis de l'histoire. Les journalistes sont les historiens du quotidien. Ils racontent le monde. Et il ne faut pas mal raconter le monde. Parce que le même monde vous condamnera.
Ça, alors, si je comprends bien, logique. Si aujourd'hui les fake news prolifèrent, ça veut dire que la bonne information, la nature a horreur du vide. Quand il y a le vide, c'est fini, les fake news prennent de l'ampleur. Comment les journalistes maintenant peuvent, professionnels je veux dire, peuvent travailler, utiliser les réseaux sociaux pour bien éduquer, pour donner une éducation électorale à la population?
Aujourd'hui, Mégane l'a dit, il y a des médias traditionnels qui se sont mués. Je crois que Radio Capi a... RadioCapi.net
qui sont présents sur internet
exactement, et au-delà de ça vous avez une page Facebook et plusieurs médias l'ont fait, mais au-delà de ça il y a des pure players qui montent, qui n'ont des médias, qui n'ont que des sites internet et qui sont très forts aujourd'hui sans faire la publicité. Vous le connaissez, il y a de plus en plus des médias qui ont pris de l'ampleur, qui ne sont que de pure players, et par conséquent dans ce fourre-tout où il y a un torse rumeur, il garde une certaine notoriété, il garde une respectabilité. Ça veut dire que dans un monde où il y a le désordre, vous pouvez mettre de l'ordre et être
aujourd'hui,
respecté.
Aujourd'hui, il y a par exemple Actualité.cd.
Ah, merci de le citer. J'étais en train de... Actualité.cd. Qui fait l'effort, ils sont factuels. Et d'ailleurs, j'ai discuté dernièrement dans le cadre d'une enquête avec Passion. Je n'avais pas beaucoup tiré attention au départ, mais il me l'a dit et j'ai constaté. Eux, ils ne font jamais des commentaires. Donc, ils font le journalisme d'agence. Donc, ils ne font que le reportage sur les faits. Ils sont sur le factuel. C'est vrai que c'est un choix. Il ne leur est pas interdit. Faire des commentaires ne veut pas dire qu'on va à côté. Parce que le commentaire, effectivement, cristallise, permet aussi d'orienter l'opinion. Mais eux, ils ont choisi de ne faire que le factuel. Ils sont très respectés. Actualité.news, Actualité.cd a une notoriété. Il y a d'autres médias aux côtés de Actualité.cd. L'effort que nous devons faire, effectivement, il y a par exemple Zoomeco. Tout à l'heure, on était dans le hall avec Eric Chukuma, qui fait un travail de qualité.
Qui donne des informations économiques.
Économiques. Qui fait un travail de qualité en profondeur, en toute responsabilité. Et qui ne se laisse pas influencer par qui que ce soit. Et qui fait l'effort de rester indépendant. Alors, c'est très important. Si on parvient à comprendre le sens de cette responsabilité d'une façon ou d'une autre, on construit une communauté des responsabilités, mais en même temps, il y a toujours un retour en termes de satisfaction, de crédibilité. Parce que c'est dans les longs termes. Le buzz, c'est quelque chose qui passe après un autre buzz. Si vous travaillez pour le buzz, ça veut dire que vous passerez aussi avec le buzz. Mais si vous travaillez dans les temps, la responsabilité, c'est cette conscience que l'on a qu'on ne fait pas un travail seulement pour aujourd'hui, mais on fait un travail durable. Non pas seulement pour nous-mêmes, mais pour toute une communauté. Et ça, c'est ce qui est très important. La conscience et la responsabilité que le journaliste devrait avoir face à l'histoire, mais vis-à-vis de leur pays. C'est aussi une façon d'exprimer son sens du patriotisme vis-à-vis de notre cher pays.
Mais Mégane, comment le journaliste peut aujourd'hui continuer à éduquer la population par rapport aux élections, tout en évitant, il y a par exemple ici le contexte de la manipulation. Il y a certains politiciens qui peuvent chercher à manipuler les journalistes afin qu'ils donnent des informations en faveur de tel ou tel autre parti. Comment être à l'abri de tout cela?
Bon, en même temps que ce monde de communication ouvert, non, on vient de parler des réseaux sociaux, ça présente des défis, n'est-ce pas? Il peut avoir, on peut dire, trop d'infos. En même temps, ça présente des plusieurs opportunités pour les médias, pour les journalistes et pour le public de vraiment avoir accès à une variété des infos pour qu'ils puissent s'éduquer sur les questions des élections, de la démocratie, des candidats, des problèmes et thématiques qui soulèvent les candidats, des possibles conséquences de telle ou telle politique, n'est-ce pas? Alors, ça présente vraiment une opportunité pour les journalistes de présenter ces infos à la population par plusieurs voies. Et à mon avis, ça, ce n'est qu'une bonne chose. À l'époque, je parle d'à l'époque, dans une ville, il pourrait être un seul journal, n'est-ce pas? Alors, les gens devraient recevoir une chaîne de radio ou une chaîne de télévision. Ils n'avaient pas la possibilité de vraiment faire une comparaison avec, entre ce que dit le média A et journaliste B, n'est-ce pas? Mais maintenant, ils ont eu cette opportunité de vraiment apprendre des différents journalistes, des différents points de vue, des différentes infos qui peuvent partager des journalistes. C'est vrai ce que Jeanne vient de dire. Il faut qu'ils prennent soin de ne pas être pris par le scoop ou le buzz qui n'est pas toujours vérifié. Mais si ils sont éduqués comme consommateurs de ces infos, ils peuvent le faire assez facilement. Mais côté de la presse, c'est vraiment une opportunité de jouer un rôle même plus important et plus ample sur les différents moyens de communication qui existent.
Megan, on est arrivé à la fin de cet entretien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au sujet du jour? Le rôle des médias dans un processus électoral. En résumé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Bon, c'est les médias jouent un rôle clé, comme j'ai dit au début de notre conversation, soit dans une démocratie, soit dans une période des élections. Aux États-Unis, on espère continuer à avoir un système très ouvert où les médias ont accès à toutes les informations nécessaires d'éduquer le public. Je peux vous dire en même temps, je vais profiter de ces dernières secondes pour vous dire que nous, comme ambassade des États-Unis, nous travaillons bien sûr avec les journalistes, mais on a aussi accès à des infos de l'ambassade au grand public par moyen du compte Twitter de Ambassador Hammer, qui est déjà très connu. C'est @USAMBDRC ou par le compte Twitter de l'ambassade, @USAMBKinshasa, ou notre compte Facebook, l'ambassade des États-Unis à Kinshasa.
Bien, merci. Et Jeanne Candolo, alors pour terminer, qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport au rôle des médias?
Nous avons dit que les médias ont un rôle capital, très important. J'allais dire un rôle vraiment primordial dans la cristallisation de mentalité même de la population. Mais bien plus, dans la période électorale, il est plus qu'important que le média soit conscient de leur responsabilité et de jouer ce rôle avec beaucoup plus de sens de patriotisme parce que la vie de plusieurs en dépend.
Nous disons merci à Eugène Candolo. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien participant au programme des visiteurs internationaux, IVLP, du département d'État américain. Merci également à Megan Larson-Conné, conseillère en communication à l'ambassade des États-Unis. Merci et à la prochaine.
Merci.
Merci.
Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à Okapi Service. Nous mettons ainsi fin à cette première partie de l'émission. Nous allons suivre les informations et on se retrouve juste après pour la suite de notre programme. Restez avec nous. Voilà.
Okay. Merci.
Parfait.
Merci bien.
Donc aujourd'hui, c'est mercredi, je crois qu'on va diffuser demain, jeudi à
10h. Merci. Merci à Eugène, tout ce que j'ai dit, il a mieux expliqué en meilleur français. Ça m'a beaucoup aidé.
Mais votre français aussi est bon.
Ah, merci, c'est gentil.
On l'a connu pire.
Ouais.
Votre français n'est pas mal.
Ah, c'est gentil, merci.